Vous écoutez
RMC.
RMC.
On se plaint souvent d'avoir des robinets d'eau tiède en conférence de presse. Là, t'as un mec qui ouvre sa bouche, alors peut-être à bon escient ou à mal escient. Au moins, il est pas tiède.
Le fait que ce soit simplement le quatrième club, alors certes, non, c'est pas inédit, mais ça remonte au calanque hein, quand même.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Merci d'écouter RMC en ce vendredi soir. Il est 21h, Génération After avec Simon Dutin et Jonathan Macardy. On prolonge le débat sur Mbappé après ses déclarations hier soir, après la victoire face à l'Autriche. D'abord les directs, encore un but pour le Brésil face au Ghana, Valentin Jamin.
Et il est très beau ce but, 28 minutes de jeu, ça fait 2-0 pour les Brésiliens. Le but de Richarlison, l'attaquant de Tottenham, bien servi à l'entrée de la surface. Une passe verticale, une passe qui casse des lignes. Et lui, en pivot, en une touche de balle, qui vient frapper ce ballon dans le petit filet de Wolacott, le gardien du Ghana. Ça fait 2-0 pour le Brésil et c'est logique. On approche de la demi-heure de jeu. Ce match va être long pour les Ghanéens. 2-0.
Et également la Ligue des Nations, Italie-Angleterre, Salim Bongali.
Le quart d'heure, toujours 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre. J'évoquais il y a quelques instants la belle opportunité pour Gianluca Scamacca. Et on va être très honnête, depuis un quart d'heure, c'est l'Italie qui domine et archi domine même l'Angleterre, avec notamment Harry Maguire en défense. N'y arrive pas du tout. Harry Maguire qui tout de même a eu une pseudo-occasion sur corner, mais une balle qui a été captée par le gardien. J'aurais pu la capter assez aisément aussi. 0-0 toujours entre les deux.
0-0 toujours également. C'est que le maillot des Anglais est vraiment moche cette année.
T'as raison. Très vintage, fin années 90, je dirais début 90.
Ben oui, ouais. Parce que d'ailleurs le maillot extérieur, le maillot away, le maillot rouge s'inspire vraiment du maillot rouge des années 90 de l'équipe d'Angleterre, alors que c'était pas du tout le même équipe entier. Oui, parfois on fait du neuf avec du vieux, on va le dire comme ça.
Alors messieurs, tiens, une information que je vais vous donner tout de suite concernant l'Olympique de Marseille et sa campagne en Ligue des Champions en phase de groupe. Le match contre le Sporting Lisbonne, prochain match de Marseille en Ligue des Champions au Vélodrome, se jouera à huis clos. Décision de l'UEFA. Le virage nord sera fermé aussi pour le match contre Tottenham.
Moi j'ai envie.
Vas-y. Je rappelle, c'est entre autres pour jet de fumigène, utilisation de laser, ouais. Perturbation de la foule, blocage des passages publics, voilà tout ça.
Moi je trouve.
C'est très lourd comme sanction.
C'est un brin injuste. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais sur place et j'avais une vue privilégiée sur le parquage des Allemands et sur ce qui s'est passé avec le virage nord. Alors c'est vrai qu'il y a eu des choses pas très jolies qui se sont passées. Il y a eu des jets de fumigène. Du virage nord vers le parcage des Allemands, mais il faut quand même dire une chose, c'est que c'est, alors je sais que ça fait un peu cours d'école,
c'est de
dire
c'est pas qui a commencé,
mais c'est vraiment les Allemands qui ont commencé avec des ce qu'on appelle des pétards avec lanceur, c'est-à-dire que t'as des pétards où tu peux tirer, t'appuies dessus, et en fait c'est il y a un propulseur qui fait que le pétard prend une vitesse extraordinaire et ça c'est facile de tomber là où tu le souhaites. Il y a eu des bombes avec des échanges de bombes agricoles aussi, ce qui est quand même assez curieux. J'ai vu des bombes agricoles partir du parquage des Allemands. Donc certes les Marseillais ont répondu, mais il y a eu un comportement très agressif de la part des Allemands et je pense que la moindre des choses, j'accepte le huis clos en tant que supporter de l'OM. Fermeture du virage nord aussi, mais j'espère que le club de Francfort sera lui aussi très fortement sanctionné pour le manque d'encadrement et le manque de responsabilité quant aux supporters qui sont venus au Vélodrome, qui sont comportés très salement.
Donc voilà, huis clos pour Marseille Sporting en Ligue des Champions et virage nord fermé pour Marseille Tottenham, dernier match de la phase de poule de Ligue des Champions. Ce sera pas forcément décisif, mais important pour l'OM qui va jouer sans la majorité de ses supporters. Ah oui, ça va compter énormément.
0 points
de match, huis clos pour le match de la relance contre le Sporting, et puis un huis clos partiel pour la sixième et ultime journée de la phase de poule.
Mais prends pas 4 points sur les deux prochains matchs, de toute manière c'est fini.
Madi est avec nous au 32-16. Salut Madi.
Salut Madi.
Salut.
Salut.
Bienvenue dans Génération After. Tu nous écoutais débattre là sur Kylian Mbappé après sa déclaration d'hier. Je résume grossièrement, il s'estime plus libre en équipe de France grâce à Giroud en pivot qu'au Paris Saint-Germain. Qu'en penses-tu?
Écoutez, moi en fait j'appelle surtout pour une chose par rapport à Mbappé, c'est que j'ai écouté encore une fois attentivement Jonathan, et j'avais déjà appelé la dernière fois concernant Paul Pogba, parce qu'il avait quand même osé dire que Paul Pogba à l'heure actuelle était un joueur moyen et que voilà, enfin bref, plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il avait réussi à m'énerver une fois et là ça fait deux fois qu'il réussit à m'énerver. Je suis désolé.
T'es soupolé mon garçon.
Vas-y, dis-moi.
Non, soupolé, tu sais que soupolé veut dire qu'on change comme ça d'humeur.
Oui.
Pas du tout.
Oui,
là,
oui,
en l'occurrence, c'est pas ça dont il s'agit. Te concernant, c'est assez constant. Je t'assure, à chaque fois que je t'écoute, j'aime bien t'écouter, mais je m'énerve assez souvent. Bon, trêve de plaisanterie.
Dis-moi, je suis prêt. Dis-moi
juste un truc. Tu dis, comme beaucoup de gens, Mbappé est un joueur de profondeur et rapide. Alors, tu vois, moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue d'entendre des trucs comme ça. Mbappé, depuis à peu près l'âge de 13 ou 14 ans, je l'ai vu jouer. Son entraîneur, d'ailleurs, à l'époque, c'était Bruno Irles, qui disait qu'il n'avait pas d'avenir dans le football professionnel. Et il jouait à Monaco à l'époque, d'accord ? Et il était au-dessus du lot techniquement, je dis bien au-dessus du lot techniquement, à Monaco. Hein, j'ai pas dit à Troyes ou à Sedan. À Monaco, il était au-dessus du lot. J'ajoute que Mbappé, en fait, le problème, quand on le regarde, c'est que déjà, il faut se dire que pour faire ce qu'il arrive à faire, déjà, à l'allure où il le fait, il faut être surdoué techniquement. Il ne faut pas juste être bon techniquement.
Ah, on n'a pas dit qu'il avait les pieds carrés, hein ? Attention, hein ?
Je termine et tu me répondras. Ensuite, un troisième paramètre concernant Kylian Mbappé, je pense que vous confondez, pour beaucoup, la technique et la gestuelle. La gestuelle est une chose, la technique en est une autre. Et parfois, souvent, un joueur qui a une belle gestuelle, je le concède, a une bonne technique. Mais lui, il est très efficace, et c'est vrai que c'est pas Zinedine Zidane, c'est pas Neymar, avec qui je n'aime pas la comparaison, mais il sait faire énormément de choses.
Mais bien sûr.
Et la quatrième chose, je pense qu'avec ce garçon, on a plein de représentations. C'est un attaquant qui vient des quartiers, etc., qui va vite. Et tout à l'heure, j'ai oublié, je suis désolé, le prénom de l'animateur, j'ai un petit trou.
Nicolas
a dit attention, c'est pas Djibril Cissé. Eh ben ouais, carrément quoi. Je pense qu'on y va à chaque fois avec des représentations. C'est pas Djibril Cissé.
Ah, tu l'as pris
c'est
comme
juste
ça.
Un joueur que bah non mais bah, je le prends tout le temps comme ça en l'occurrence.
Bah, alors attends. Que cette fois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis à 100% d'accord avec toi sur la différence entre gestuelle et qualité technique. C'est pas pour rien que mon joueur favori du moment c'est Thomas Müller. Je pense que c'est le joueur le plus dégueulasse à avoir joué en termes de gestuelle. Mais donc pour ça je te rejoins entièrement. Après attention quand j'ai dit c'est un joueur de profondeur et rapide. Et je pense que j'aurais peut-être dû mieux expliquer ce que je voulais dire par rapide. Pour moi, ça veut pas dire qu'il a les pieds carrés. C'est juste que ça peut être, tu vois, dans la surface adverse. Donc pas en profondeur, mais dans un jeu qui est fermé. C'est juste son démarrage. Il est capable, sur un demi-mètre, de mettre trois tours de rein à n'importe quel défenseur. C'est une qualité qui, pour moi, est importante. Et évidemment, elle s'accompagne d'une qualité technique qui doit être, qui va de pair avec ça. C'est-à-dire la conduite de balle, le fait d'être capable de contrôler le ballon et de se l'amener de manière très rapide dans la direction auquel il veut aller. Et pour ça, il est forcément technique.
Attends, vas-y.
Et ce que je voulais dire par là, Madi, c'était que pour moi, s'il joue sur ses qualités, qui sont sa vitesse d'exécution, et donc je te rejoins, il est technique. Il a une vitesse d'exécution qui est hors du commun, qui sont sa vitesse d'exécution, son démarrage sur les premiers mètres, il est à mon sens plus utile que s'il veut jouer en créateur. C'était juste ça, à mon avis. Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais ça n'est pas plus loin que ça. Et juste m'a dit, j'ai jamais dit qu'il avait les pieds carrés. Abuse pas.
Alors, du coup, je vais répondre. Non, j'ai jamais dit que tu avais dit ça, Jonathan, mais je vais répondre. Je vais pas te répondre à toi, je vais répondre à tout le monde. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui pensent que d'abord, sa qualité première, c'est la vitesse.
Mais c'est pas vrai.
Je dis juste une chose. Si vous mettez Neymar, si d'un seul coup vous faites courir Neymar à cette vitesse, vous lui mettez un moteur aux fesses, vous le faites courir à cette vitesse, je ne suis pas sûr que Neymar conserve la technique que Mbappé conserve à pleine vitesse. C'est ça aussi qui fait la différence, vous voyez. Donc, du coup, j'appelle pour pousser un coup de gueule. Alors pas forcément, j'étais un peu chambré, hein, Jonathan, c'est pas
forcément. Il n'y a pas de souci.
Entre toi,
t'es supporter du PSG, c'est pour ça.
Non, même pas.
Ah ouais, cette idée reçue que Mbappé n'est pas un joueur ultra technique. Je suis désolé, c'est un joueur techniquement ultra doué.
Voilà. Bien sûr.
Mais voilà, je pense que ton message est passé, il est clair. Et je pense que moi, je t'en
veux. Il a eu raison de le faire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs entre guillemets de Mbappé qui limite, ils t'en parlent comme d'un tout droit qui a un moteur aux fesses.
Mais non, c'est ce que je disais.
Pas ça. Et c'est d'ailleurs pas ça qui a voulu faire évoluer son jeu et la revient sa panoplie parce que lui sait que dans l'imaginaire, c'est réducteur, un attaquant qui court vite.
De là à devenir Iniesta, non, il y a quand même un pas qu'on franchira pas. Et je pense que Mbappé, sur ses qualités, il est juste fabuleux, phénoménal, ce que tu veux. Mais il a besoin d'avoir un créateur derrière lui pour être encore plus fort. Et juste pour en revenir, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais avant la pause on se disait, mais quel message il a voulu faire passer? Moi je pense qu'il y a un message qui est clair, c'est vous m'aviez dit que vous vendriez Neymar, vous le vendez pas, ça me bloque. Je pense que c'est surtout ça le message.
Moi je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Luis Campos la semaine dernière dans Rotten.
Bien sûr.
Quand il a constaté, reconnu qu'il y avait un petit problème au PSG, offensivement, qu'il y a deux joueurs au même profil, qui voulaient jouer au même endroit sur le terrain, que sont Mbappé et Neymar. C'est lui-même qui l'a dit. Je pense que ce que veut dire Mbappé, c'est qu'il nous manque un profil différent, comme celui de Giroud au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain.
Mais attention, les gars, en bleu.
Et Kitike peut le faire, mais il n'est pas prêt,
c'est pas Giroud. En bleu, il va y avoir le même problème. C'est-à-dire que moi, je le dis depuis que l'annonce du retour de Benzema en sélection, et je pense qu'on l'a vu, Benzema, Griezmann, Mbappé n'ont pas les mêmes profils, mais ils occupent les mêmes zones préférentielles sur le terrain. Et ça, c'est un problème.
Alors, il y a deux choses. C'est pour finir, Mbappé nous dit je joue en pivot à Paris. Moi, j'ai pas l'impression qu'il joue énormément en pivot et que le jeu de toute façon de possession parisien se beaucoup.
Je pense que c'est la manière dont on lui demande de se positionner entre les deux centraux.
Voilà.
Il prend pas les ballons de la tête, etc. Comme Mamadou Samassa, mais c'est plus son positionnement.
Voilà.
Je suis d'accord. Allez. Il joue pas nécessairement en pivot.
Et pour terminer, là, Jonathan, je trouve que hier, le match de Mbappé, il y a quand même à peu près tout dans ce qu'il nous a proposé. Et je trouve que c'est pas un bon exemple quand même pour illustrer ta théorie sur le rôle qu'il doit occuper et celui auquel il doit se cantonner.
Dis-moi contre qui tu as joué, je te dirais qui tu es. C'était l'Autriche. Et en Ligue des
Champions. Jonathan, c'est pas son premier bon match. Il a fait des matchs contre des équipes extraordinaires.
Mais pas forcément dans ce registre-là.
Il a mis la misère à Manchester City, quoi, tout seul. Le type,
mais pas dans ce registre-là. Ouais. Je suis d'accord.
Allez les gars. C'est vrai qu'à l'époque, c'est sur la vitesse.
Ah oui. C'est pas
Magic, bonne soirée à toi. Bravo pour ton intervention.
Ouais, très bien.
On échange avec Jonathan McCarty. Vous êtes restés courtois tous les deux, bien qu'en désaccord. J'aime bien.
Et tu rappelles quand tu veux poulet.
Simon Dutin, Jonathan McCarty, Génération After. Les directs rapidement. On commence par Brésil-Ghana. Valentin Jamin, coup franc pour le Brésil.
39 minutes de jeu, oui. 2-0 pour les Brésiliens. Marquinhos et Richarlison, les buteurs. Et Neymar va tirer un coup franc qu'il va pouvoir mettre dans la surface de réparation. Pas une grosse ambiance, mais une ola qui vient de partir. Voilà, c'est la fête au Havre ce soir. 39 minutes de jeu et 2-0 pour le Brésil.
C'est les yeux des Philippe, hein, je crois, le maire du Havre, hein, qui est là.
T'as c'est fort probable. Je l'ai pas vu, mais c'est fort probable.
Je l'ai vu, barbe intégralement blanche maintenant. Sourcils blancs intégralement également. Voilà.
Mutation effectuée.
Mutation en cours en tout cas.
Il est prêt.
Italie-Angleterre, Salim. Bonne
il
n'y
a pas d'Edouard Philippe à San Siro a priori. 26 minutes, toujours 0-0. Oui, c'est ça. 0-0 entre Italiens et Anglais dans une ambiance.
Et le troisième sur ce coup franc tiré par Neymar et coupé par Richarlison. Et bien voilà, 3-0 après 40 minutes de jeu. Le Brésil déroule et Richarlison signe un doublé sur la pelouse du Havre. 3-0 pour le Brésil face au Ghana, 40e.
Italie-Angleterre, Salim.
Et donc toujours 0-0 après 26 minutes dans une ambiance très feutrée à San Siro. Le 3-4-3 anglais est dominé par le 3-5-2 italien.
Et la Hongrie mène 1-0 les gars en Allemagne. Voilà, un but de Zalaï. La Hongrie qui a 10 points dans cette Ligue des Nations après 5 journées pour l'instant. Après 30 minutes de jeu, la Hongrie qui ne sera pas au mondial d'ailleurs. Hein. C'est dire. Allez, on revient dans un instant, Génération After, 21h13, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, merci d'être avec nous tous les soirs, hein, le lundi au vendredi de 20h à 22h sur RMC. Jonathan McCarty, Simon Lutin à mes côtés, très rapidement les directs, Brésil-Ghana, Valentin Jamin.
43 minutes de jeu, ça fait donc 3-0 pour le Brésil, but de Marquinhos, doublé de Richarlison et doublé de passe décisive pour Neymar sur les deux buts du joueur de Tottenham. La balade brésilienne se poursuit, 43 minutes de jeu, 3-0 pour le Brésil.
Italie-Angleterre, Ligue des Nations, Salim Bongali.
29 minutes toujours 0-0, Valentin a des buts. Si Valentin, tu veux me donner ne serait-ce que des occasions, je prends.
Et je pense qu'il y en aura. Hein.
Je prends pour le coup parce que des occasions, il n'y en a pas au final, à part cette première tête de Scamacca. Sinon, on s'endort au milieu de terrain, surtout toujours 0-0 entre les deux équipes.
0-0 Italie-Angleterre, toujours 1-0 pour la Hongrie sur la pelouse de l'Allemagne après 30 minutes de jeu. Messieurs, tiens, information, je vous rappelle une des informations de la soirée. Marseille jouera son troisième match de la phase de poule de Ligue des Champions au Vélodrome à huis clos. Décision de l'UEFA ce soir et virage nord fermé pour le dernier match, la sixième journée, et pour la réception de Tottenham en Ligue des Champions. Voilà.
Il y aura eu juste et un seul match de Ligue des Champions à Marseille avec le Vélodrome plein.
C'est terrible.
C'est dramatique.
Alors qu'on n'avait pas eu pour la dernière campagne à cause du confinement.
Du Covid, ouais.
Du Covid. Nice également jouera à huis clos. En tout cas, interdiction de déplacement pour ses supporters pour la prochaine journée de Ligue Europa Conférence sur les terrains de Slovako le 6 octobre et un huis clos total à l'Allianz Riviera pour la réception de Slovako le 13 octobre. Tout va bien. Début de campagne européenne, magnifique pour les clubs français.
Voilà. Il n'y a pas un petit classement UEFA du comportement des supporters.
On est pas mal. Bon, on n'est pas responsable de tout, attention Simon, ce que tu dis. D'accord ?
Ah ben, Cologne, j'ai eu l'occasion de dire que la sanction contre l'OM, je l'ai trouvée très très dure hein, quand même.
Alors messieurs, Lyon à présent, on vous attend supporter de l'OL le 32-16. Pression confirmée sur Peter Bosz, 6e de Ligue 1. 3 défaites consécutives, pauvreté dans le jeu, pas d'évolution ou peu. Selon nos informations donc que nous maintenons, réunion la direction avec le staff de l'OL avant le match perdu face au Paris Saint-Germain. Ultimatum fixé, glaner 17 points d'ici la trêve, 17 points sur 24, il reste 8 matchs avant la trêve hivernale. Sinon, Ce sera merci, au revoir pour Peter Boss. Cela n'a pas été dit comme ça, bien sûr, mais c'est le sens du message. Aujourd'hui, démenti de l'Olympique Lyonnais dans un communiqué. Aucun ultimatum n'a été prononcé à l'encontre de Peter Boss. L'entraîneur lyonnais et son staff ont connaissance d'un premier temps de passage fixé. Ouais. C'est un peu ce qu'on dit, finalement. À la trêve, mais le club tient à rappeler qu'il a une totale confiance en Peter Boss. Ouais, dans le genre démenti, on a vu plus convaincant. Pas d'ultimatum, mais en tout cas, il y a un temps de passage.
Est-ce qu'ils vont le virer avant ?
Question de sémantique, tout ça.
Non, ils vont le virer avant.
À moins que.
À moins que, regarde, 17 points jusqu'à la trêve.
Tu veux le calendrier ou pas ?
C'est justement ça le problème. C'est qu'ils vont, à Lens. Ils vont à Rennes.
Ils ont 4 déplacements. Lens, Rennes, Montpellier, Marseille.
Eh ouais.
Il y a réception notamment le Toulouse, Lille et Nice.
Mais c'est le calendrier est très compliqué. C'est surtout quand tu vois la qualité de jeu de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Écoute, je pense que depuis que Peter Boss est arrivé, on lui a accordé dans cette émission beaucoup de crédit. Parce que il est vrai que sur sa première partie d'expérience, il n'avait pas les joueurs dont il avait besoin pour mettre en place son 4-3-3, etc. Il n'y avait pas de joueurs de côté. Quel intérêt de faire venir Peter Boss si tu ne prends pas d'attaquant de couloir, etc., etc. Là, le matériel, il l'a. Et il en fait n'importe quoi. Force est de constater qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre lui et son vestiaire, entre même lui et sa direction. On voit les déclarations un petit peu contradictoires de Jean-Michel Aulas et de Vincent Ponceau à son sujet. On sent que lui se sent sur la sellette, n'est pas en confiance, marche sur des œufs. Moi, je pense que pour le bien de l'Olympique Lyonnais, il faut dès maintenant arrêter l'hémorragie et se séparer de Peter Boss. Il a eu un nombre de chances incalculables depuis qu'il est à l'OL. Nous-mêmes avons été d'une clémence totalement dingue avec lui. Parce qu'on se disait, c'est un entraîneur qui arrive avec des idées de jeu, il n'a pas le matériel.
D'accord avec Bruno Genesio, en fait.
Là, il faut arrêter.
D'accord avec Genesio.
Mais c'est Genesio à sa place.
Il aurait démonté.
Pas démonté. Il se serait fait virer depuis longtemps. Il se serait fait virer depuis bien longtemps. Donc, je pense qu'il faut arrêter les frais. Ça n'a pas marché. Il faut regarder les choses en face. Moi, je pense que ça aurait déjà dû être fait avant la trêve internationale. Alors, je ne sais pas si les problèmes financiers de Textor font que t'hésites un petit peu à virer ton entraîneur parce que ça te coûte des sous. Et je rappelle que l'OL est coté en bourse, donc tu peux pas faire n'importe quoi avec l'argent du club. Mais pour le bien de l'OL, et pour le bien de Peter Boss qui a l'air d'être dans un état psychologique lamentable, il faut arrêter les frais.
Ça ne marche pas,
c'est comme ça.
Peter Boss peut-il tenir les temps de passage imposés par sa direction ? Appelez-nous, supporter lyonnais au 32-16, Simon.
J'ai toujours un peu de mal, moi, avec ces espèces d'objectifs, là, comme si on était dans une boîte, là, tu sais, qui compte le pognon que tu peux rapporter. C'est du foot, c'est un petit peu,
aller à l'époque. Mais quand t'es lion, tu vas des comptes à rendre comptablement.
Non, mais là où je rejoins Jonathan, c'est qu'effectivement, soit tu le vires maintenant, soit effectivement tu le virais à l'intersaison, parce que effectivement, bon, ça a pas marché la saison dernière, il se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, alors qu'il y avait quand même l'effectif pour le faire. Il réussit à transformer Oussem Aouar, qui était un des milieux de terrain les plus convoités en Europe, en un joueur lambda.
Oussem Aouar s'est devenu un joueur lambda tout seul.
Bon, alors, mais peut-être
par
qu'il y a
son comportement, par son attitude, par la gestion de son contrat.
Et écoute, en tout cas, il fait pas la saison qu'on attendait de lui. C'est très, encore une fois, nébuleux. Pourquoi l'a-t-on gardé cet été? Est-ce qu'on n'a pas trouvé mieux?
Est-ce qu'il n'y a pas d'offre?
Est-ce que ça coûtait trop cher? Est-ce que.
Il n'y avait pas d'offre, Simon.
Tu décides, selon leurs propres termes, de redonner l'ADN Olympique Lyonnais à ce club et tu gardes un mec avec qui la greffe n'a pas prise. Donc, je sais pas, il y a effectivement ce timing, là, du rachat, de la reprise. Peut-être que Jean-Michel Aulas, s'il a d'autres chats à fouetter, il s'occupe un petit peu de son futur job. Je sais pas, mais en tout cas, effectivement, moi, je suis contre ces espèces d'objectifs. Vous venez de le rappeler, le calendrier, c'est quasiment une blague, quoi. Effectivement, ils ont quasiment.
Après, avec ce qu'ils ont proposé, je pense que
depuis des mois,
le vrai critère.
Lyon n'est pas capable, selon vous.
Non, c'est trop compliqué.
Il y a une autre lecture, 5 victoires de nul sur les 8 matchs.
Ouais, mais
pas possible.
Il faudrait un miracle parce que moi, en fait, c'est pas le bilan comptable. Et je te rejoins, Simon, on s'en fout, en fait, du nombre de points. C'est le plan de jeu. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Et pour l'instant, c'est mauvais. C'est juste mauvais quand tu vois l'OL jouer. C'est indigne d'un club qui a ces joueurs-là. Alors, je veux bien qu'on sorte le. Et je rejoins les supporters lyonnais quand ils disent à chaque fois on perd nos meilleurs joueurs, on les remplace pas, c'est-à-dire que tu perds Memphis, il n'est pas remplacé, tu perds Paqueta, il n'est pas remplacé par un autre joueur de qualité similaire. C'est vrai que c'est difficile, mais quand tu vois la qualité de ton effectif, tu dois être quand même capable de faire beaucoup mieux que les bouillies que tu proposes face à Monaco ou comme face à Lorient. C'est pas possible, t'es l'Olympique Lyonnais quand même.
T'as beau perdre Paqueta qui avait atteint un niveau que l'OL ne le soupçonnait même pas à voir atteindre un jour lorsqu'ils le prennent à Milan, c'était un gros pari effectivement. évidemment tu perds un super joueur, mais il y a encore tout ce qu'il faut dans l'équipe et dans l'effectif. Effectivement, il y a des gestions de joueurs et de, je sais pas, je comprends pas.
Je comprends pas le cas de Dembélé,
le cas du petit Fèvre qui était un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, de notre championnat. Quand ils le prennent, tu dis ah là là, ça c'est bien Lyon, ils savent toujours les prendre au bon moment. Pour l'instant, ça ne donne rien. Il est quasiment au placard. C'est effectivement incompréhensible. Et moi, j'avais beau. On a toujours de la sympathie. Le pédigré Ajax, t'as envie que ça marche, en fait, au fond, même quand t'es pas supporter lyonnais.
Bien sûr, on avait tous envie.
De Ligue 1, tu dis, on a envie que ça marche.
Belle philosophie.
Et au bout d'un moment, bah voilà, faut arrêter de s'entêter, en effet. Mais bon, tu mets qui pour,
c'est facile.
Pour utiliser tout ça.
Et Laurent en blanc.
Ah, c'est facile, bravo.
Laurent Blanc est la solution. Je dis pas que c'est la solution, mais je pense que c'est ce qu'ils ont en tête. Le rendez-vous a déjà été manqué avec le grand oral foiré Rudy Garcia qui a siroté la place.
Et est-ce que malheureusement Laurent Blanc, parce que c'est peut-être pas au niveau de ce que Laurent Blanc attend.
Oui, bah Laurent Blanc, je pense qu'il a dû comprendre. Il a compris que
vous avez vu la liste des clubs qu'il a refusé parce que ça correspondait pas.
Il a compris. Je pense qu'il a compris.
Laurent Blanc, tu sais.
Donc moi, je dis pas que c'est la solution, hein. Mais je pense que, voilà, c'est écrit qu'un jour il entraîne ce club-là.
Dans ce communiqué, spontanément également, la direction de l'OL évoque le cas Thiago Mendes. Voilà. Il est écrit, le choix de Thiago Mendes en défense centrale n'a jamais été remis en cause en interne. Le match du Brésilien face au PSG témoigne de ses qualités pour évoluer à ce poste.
Quelle bouffonnade, excuse-moi.
C'est-à-dire qu'on prend le match face au PSG, effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il a été bon, hein, contre le PSG. Mais ce que les supporters lyonnais jugent, c'est l'ensemble de sa saison et surtout l'incohérence du choix de le faire redescendre en défense centrale. Je vais accueillir Pierrick au 32-16, supporter de l'OL. Salut Pierrick.
Salut tout le monde.
Bienvenue dans l'After, dans Génération After. Que penses-tu de cet ultimatum? Alors, à Lyon, on ne l'appelle pas comme ça, on parle de temps de passage à respecter, de 17 points sur 24 avant la trêve. Est-ce que tu penses que Peter Bosz peut tenir ce temps de passage?
Non, je pense que s'il reste à ce niveau-là, enfin, si Lyon reste à ce niveau-là, je pense que Bosz, il sautera avant. L'objectif, c'est clairement le top 3 pour le club et là on n'y est pas, et si on continue comme ça on n'y sera pas, sachant qu'on a que le championnat, donc voilà. En plus tout n'est pas de sa faute, je pense. Le recrutement, ça lui est pas forcément imputable, mais il y a des choix qui sont pas trop compréhensibles. Cherki, par exemple, 80 minutes, enfin avant le PSG, il y avait 80 minutes de jeu, je crois, ou quelque chose comme ça. Thiago Mendes qui a redescendu en défense centrale. Il y a des joueurs qui, ouais, intouchables. Je pense que c'est un tout qui fait que, ouais, non, si on se rapproche pas plus du podium, il risque de sauter d'un courant de la saison. Il y a pas matière à le faire sauter maintenant, mais je pense que le coup de pression, il est légitime, ouais.
Légitime. Bah écoute, hein, en tout cas, il est réel ce coup de pression, malgré ce communiqué, ce démenti.
Quand tu dis qu'il n'y a pas matière à le faire sauter maintenant, mais que le coup de pression est légitime, mais tu vois vraiment des points, il y a vraiment des choses qui te laissent penser que ça peut s'arranger? T'as pas l'impression d'avoir atteint le point de non-retour là?
Non, je pense pas non plus, parce que déjà, en fait, on est suffisamment tôt dans la saison pour, on n'est pas non plus décroché. Je veux dire, on n'est pas l'année dernière à la même époque, c'était beaucoup plus compliqué. Là, on a quand même gagné au début d'année des matchs qu'on gagnait pas l'année dernière, donc c'est un petit peu mieux. Il y a aussi beaucoup de changements de joueurs. Il teste aussi des dispositifs. Il a fait jouer Dembélé et Lacazette ensemble. C'était quand même pas désagréable non plus au niveau du jeu. Donc peut-être que ça va aussi s'améliorer. Et donc je pense qu'il n'y a pas matière à s'y partir tout de suite. On a le temps. Il n'y a quasiment que le championnat à jouer cette saison. Il n'y a même que le championnat à jouer cette saison. Je pense que...
Pierrick, d'accord, sauf que nous, on reçoit souvent des appels de supporters lyonnais au 32-16 qui nous disent on en a marre de dire qu'on a le temps avec Peter Bosz. Voilà. Maintenant, plus d'un an et demi qu'il est là et on ne voit pas d'évolution dans le jeu de l'OL. C'est ça qui est problématique. Ça, et la saison reprend comme elle s'était terminée. Certes, tu es 6e de Ligue 1, tu as 13 points sur 24 possibles.
Mais regarde le calendrier
et
aussi.
Et le calendrier à venir, bien sûr.
Non, mais le calendrier
sans jouer de gros du championnat.
Les victoires, c'est Ajaccio, 3,
Angers.
Oui, mais il y a quand même, malgré tout, alors effectivement, c'est invendable aux supporters lyonnais qui ont plus l'habitude de pas jouer la Coupe d'Europe et qui sont, on le sait, très exigeants et on se met à leur place, évidemment. Mais il y a une autre lecture qui consiste à dire bah, ça a pas marché l'an dernier, t'as toutes les raisons de t'en séparer à l'intersaison. Bon, pourquoi mettre un coup de pression? Soit tu lui laisses effectivement une saison entière en disant bah, gros, on croit en toi, on va pas se dédire.
J'allais dire à Peter Boss, gros, on croit en toi. Vas-y, Simon.
On croit en toi. Et c'est un vrai engagement. Tu vas y arriver parce qu'effectivement, s'ils gagnent lors de prochains matchs 3-0, oui, on aura tous l'air malin.
Il y a eu trop d'ultimatum fixé. Rappelez-vous déjà l'année dernière. Conférence
bien
de presse.
Sûr,
on lui laisse jusqu'en janvier. Je pense que la relation.
Il est fragilisé depuis 6 mois.
C'est trop plus de bien tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la lecture, l'ultimatum, c'est jamais la bonne solution. Soit tu lui laisses la saison, soit tu lui vires.
Mais c'est ce que tu essaies de nous dire, et que c'est clair. Et je pense qu'on le partage tous cet avis-là. C'est que la politique sportive de l'Olympique lyonnaise n'a ni queue ni tête depuis des années. Alors c'est bien beau de venir faire le kékou en conférence de presse, Monsieur Chéroux, et de dire oui, notre mercato est formidable à tel point que Sampaoli s'est barré parce qu'il a peur de l'OL. Mais bon, ça, tu te le reprends comme un boomerang quand tu vois et le mercato que tu fais et le début de saison que tu fais. Et c'est malheureusement,
vrai, t'as raison, j'avais oublié.
La politique sportive de Lyon n'a ni queue ni tête. Quand tu prends Boss dès le départ, que tu lui prends pas des attaquants de couloir, que tu dis, bah, ça marche pas. Alors finalement, au mercato hivernal, on va aller chercher Fèvre et Tété. Ah, mais oui, mais il leur faut du temps pour s'adapter. Et puis là, on dit qu'on veut un 6, mais on prend pas un 6. Et le Penant, il doit jamais être titulaire. Au final, le Penant, il fait tous les matchs. Et puis, on doit aller prendre un défenseur central parce que, mais non, c'est Thiago Mendes, c'est ça. Il y a trop de problèmes. Il y a rien qui est mené d'une manière cohérente et tu le payes sur le terrain.
Pierrick, merci. D'être venu confronter ton avis à ceux de Jonathan et de Simon dans Génération After. À très bientôt.
Salut Pierrick.
Bonne soirée. À très vite. Les directs. Italie-Angleterre. Salut Bongalini.
En troisième, toujours 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre. Mais les Anglais se sont procurés à l'instant une belle opportunité. Un contre, un 3 contre 3 avec Harry Kane à 20 mètres qui a tenté la frappe qui est passée juste au-dessus de la cage de Gigi Donnarumma. Les Anglais qui finissent mieux cette première période. Toujours 0-0 entre les deux.
Et toujours 1-0 à la prochaine mi-temps pour la Hongrie sur le terrain de l'Allemagne. Un but de Zalaï. Pourtant, l'Allemagne qui a mis l'équipe, les gars. Kimmich, Gundogan, milieu de terrain. Gnabry, Müller, Sané. Timo Werner devant, voilà, Rudiger Zoule en défense centrale. Allez, on revient dans un instant, les gars. Je vous rappelle l'information de la soirée également pour vous, supporters marseillais.
Quelle horreur.
Marseille jouera à huis clos. Son rendez-vous, prochain rendez-vous avec des champions au Vélodrome face au Sporting et à huis clos partiel, virage nord fermé pour l'ultime journée face à Tottenham, la 6e en phase de poule de Ligue des Champions. Vous écoutez Génération After, il est 21h30, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h34. Merci d'être avec nous ce vendredi soir avec Jonathan Macardy et Simon Dutin également à 22h. Thibaut Jogrand accompagné de Coach Courbis et Kevin Diaz. Messieurs, pour vous dire que c'est la mi-temps entre l'Italie et l'Angleterre, un match pourri, 0-0. Voilà. Un tir côté italien, deux tirs côté anglais, 0-0.
Ça fait 0-0 à l'aller, non, en Angleterre aussi, me semble.
À vérifier. Possible. 3-0 pour le Brésil en amical au Havre. Ça va reprendre dans un instant face au Ghana. Et l'Allemagne, à la mi-temps, est menée 1-0 à domicile par la Hongrie. Un but de Salah inscrit à la 17e minute de jeu. Avis de Jonathan Macardy. L'Olympique de Marseille, Longoria, est en train de professionnaliser l'OM. Tu nous diras pourquoi et comment. Jingle Macardy.
Bravo. Tu avais le choix, Corinne. Est-ce que tu prendrais Jonathan Macardy avec toi?
Je crois pas, honnêtement.
Amitié à Ludo Bragnac, hein,
bien sûr.
Ancien de l'after du week-end, notamment, avec qui on s'est régalé. C'était il y a longtemps maintenant.
L'after de l'élégance, c'est original.
C'est lui qui l'a lancé, le concept, d'ailleurs. C'est lui l'affaire de l'élégance. Bref, ton avis à venir fait écho à un article paru dans le journal L'Équipe qui fait état de tension à l'OM dans les bureaux dirigeants. D'un côté, un clan espagnol, de l'autre, un clan français. Par exemple, tu veux quelques citations?
Vas-y.
On lit dans l'article que Pablo Longoria a dit, s'il y a des mauvais résultats cette semaine, c'est qu'il y a une mauvaise ambiance au club. Il dit également, le premier jour où je suis arrivé au club, à l'été 2020, j'ai vu Steve Mandanda manger un hamburger. Marco Otero, directeur technique du club, dit, dans ce club, il n'y a pas d'identité. Voilà.
Bah écoute, moi j'ai pris cet article avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction parce que je pense que l'Olympique de Marseille va dans le bon sens. Alors, il est vrai qu'il y a quand même une situation très instable à la tête des postes administratifs à l'OM, hein. On se rappelle quand Longoria arrive, très tôt, il décide de l'éviction de l'ancien directeur général adjoint qui s'occupait notamment de l'exploitation du Vélodrome, c'était Thierry Aldebert, qui avait lui-même des relations un petit peu orageuses avec la majorité des groupes de supporters et leurs représentants. Il y a Nathalie Zimmermann qui n'a fait qu'un an à son poste de directrice générale adjointe en charge du marketing, ce qui était quand même un petit peu curieux parce que c'était une personne qui avait fait du bon travail. T'as David Friot qui enchaîne les postes tous plus différents les uns que les autres, même si ça reste dans le sportif, qui est passé de chef scout et qui là a été directeur sportif. Mais ça se passe pas très bien avec Pablo Longoria apparemment, c'est un peu devenu sa tête de turc. Alors c'est vrai que si on regarde, tu regardes un petit peu tous les postes administratifs, et je parle pas du centre de formation parce que alors là, faudrait un quart d'heure pour tout expliquer. Ben il y a beaucoup de turnover et je peux comprendre que ça soit difficile pour beaucoup de répondre au niveau d'exigence de Pablo Longoria, mais surtout de travailler avec un mec qui a cette personnalité-là, qui est un mec qui est obsessionnel. On sait qu'il est capable de t'appeler à 3-4 heures du matin pour parler d'un dossier ou d'un autre, qui dort pas
et
beaucoup.
Et de répondre à 3 heures du matin aussi.
Exactement. Et que ça peut donc être très compliqué de suivre le rythme de Longoria. Mais moi, ce que je vois, c'est que je connais bien l'OM. On connaît tous bien l'OM et ce genre de restructuration, elle est indispensable. Alors certes, elle va se faire avec perte et fracas. Il va avoir de la casse, mais c'est un club qui historiquement n'a jamais fonctionné de manière professionnelle. Alors je parle pas forcément du mandat de Jacques-Henri Hérault, mais j'ose même remonter au mandat de Pape Diouf, le plus grand président de l'histoire de l'OM selon moi. Selon lui, il y avait des choses au club qui se passaient qui n'avaient pas lieu d'être dans un club professionnel. On se rappelle tous des affaires avec Thomas Derrida, avec Jean Fernandez, des choses, des phénomènes exogènes extérieurs au club qui venaient gangréner le club avec
exogènes extérieurs, c'est pareil. Oui. D'accord.
Mais j'ai répété pour accentuer.
Dictionnaire des synonymes.
Non, j'ai voulu le répéter pour accentuer.
Okay, c'est
des éléments extérieurs, très extérieurs au club, avaient une emprise totalement négative sur le fonctionnement de ce club-là. Qu'il y a beaucoup trop de gens à Marseille qui ont croqué sur le fonctionnement du club parce qu'il n'y avait pas un fonctionnement professionnel qui était mis en place. Alors c'est vrai, hein, ça va faire de la casse. On le voit, il y a du turnover très très fort. En général, quand tous les consultants, c'est cher à la Macronie, qui viennent analyser le fonctionnement d'une entreprise, ils disent s'il y a trop de turnover, c'est que ça va pas bien. C'est vrai, mais là en l'occurrence, je pense que le turnover, il est nécessaire. Et donc moi, cet article de l'Équipe, écoute, j'ai pas du tout été alerté parce que il a un ton qui est totalement alarmiste, hein. C'est de dire il y a tout qui part à volo et du coup en fait l'Équipe va plus gagner un match. Ça, il y a un petit côté sensationnel que j'ai pas forcément apprécié. Merci. Je pense qu'il y a eu des éléments, notamment le coup du hamburger de Mandanda. Je pense que on sort certains mots de la bouche de Longoria pour un petit peu faire mousser l'article. Je sais aussi, et ça n'engage que moi, que certains journalistes de l'Équipe n'ont pas des très bonnes relations avec la direction actuelle de l'OM. Mais bon, cet article-là, moi, contrairement au fait de m'alarmer,
tu dirais qu'ils ont voulu se faire Longoria plaisir comme ça, là.
J'ai l'impression.
Ou déstabiliser, en tout cas.
J'ai l'impression. C'est le sentiment que j'ai. Ça n'engage que moi. Ouais. Mais c'est l'impression que ça m'a donné. Et moi, tout ça pour dire que cet article, je pense qu'il est. Et bah, je suis très content. Marseille a besoin depuis des années de cette restructuration, d'arrêter de fonctionner un petit peu. Tu sais, comme le club du Sud où on certes dans la main il y a des arrangements, on s'arrange et puis je te la mets à l'envers, etc. Faut que ça s'arrête. Longoria l'a identifié, il met tout en place pour ça et c'est très bien.
Bon, ce qui est étonnant, tenez la parole Simon, c'est que dans cet organigramme-là, la plupart des hommes et des femmes ont été nommés par Longoria. Et d'ailleurs dans l'article, hein, une citation d'un membre de la direction haut placé dit « Longoria veut réformer une organisation qu'il juge bancale, mais qu'il a lui-même mise en place ».
Mais j'ai oublié de le dire juste avant de te laisser la parole, Simon aussi, c'est pourquoi j'ai confiance. C'est
que
aussi,
qu'il s'est planté un petit peu, quoi.
Longoria,
et qu'il y a deux clans, un français et un espagnol.
Longoria est un président qui a zéro expérience, qui apprend sur le tas et qui forcément va être amené à commettre des erreurs en apprenant à endosser ce costume de président. Mais qu'il identifie les problèmes, même si c'est lui. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus dur de dire bah ça marche pas quand c'est toi qui l'as mis en place. Bah, c'est de mettre ton propre nez dans tes propres excréments.
Justement, quand tu progresses de façon empirique, tu peux pas en même temps donner autant de leçons que Longoria. Moi, je me méfie. Je suis d'accord peu ou prou avec tout ce que t'as dit parce que professionnaliser un club et effectivement apporter de la rigueur, des obligations de résultats dans les coulisses également. Je pense que c'est important. Je me méfie quand même de la caricature et effectivement, moi justement, c'est effectivement il a dû apprécier Steve Mandanda après 15 ans de fidélité au club, lui qui était un peu le papa, qui est quand même, je pense, un exemple de professionnalisme. Voir. Bah attends, excuse-moi, Mandanda il bouffait des hamburgers, tu te rends compte, j'ai entendu. Bon, il est plus
sur
là.
Sur les 5 dernières saisons, il y a deux très mauvaises saisons de Steve et deux les deux premières saisons. Et ces deux très mauvaises saisons, il a un ventre énorme.
Je me suis demandé pourquoi cette phrase et pas une autre après. Nico, tu le rappelais, c'était mon seul argument. Effectivement, c'est quand même des gens que apprend-on, il a nommé. Donc effectivement, effectivement, vaut toujours mieux tirer le frein à main ou sortir l'extincteur quand tu te rends compte que de tes propres conneries. Mais bon, je trouve ça un peu caricatural. Voilà,
De quel côté?
La présentation qui en est faite, et en tout cas l'opinion qu'on prête à Longoria, à savoir cette espèce de catastrophisme qui du coup se transforme en pression énorme sur les salariés du club. On va droit dans le mur, c'est catastrophique, on va plus gagner un match si vous continuez à bosser comme ça. Bon, je suis pas convaincu que ce soit la bonne façon pour avancer. Cela étant dit, je prête énormément de qualité à Longoria, qui n'a cessé de me surprendre depuis son arrivée au club. Donc, jusqu'à preuve du contraire, laissons-le réformer ce club.
Il est exigeant. Il est juste exigeant. C'est un niveau d'exigence auquel on n'est pas habitué en France. Lui et Ribalta, ont été habitués à ce niveau d'exigence dans les clubs où ils sont passés. Ils veulent l'instaurer à l'Olympique de Marseille. Je le répète, c'est un club qui empiriquement a toujours fonctionné n'importe comment, même sous Pape Diouf, qui tenait quand même pas mal de choses. Donc je trouve que c'est une très bonne chose de changer ça.
Mais tu vois, il y a une maladresse aussi quand tu laisses un de tes collaborateurs dire c'est un club dans lequel il n'y a aucune identité. Alors même si on voit peut-être ce qu'il veut dire, tu peux pas vendre aux Marseillais que leur club il a pas d'identité. Je suis désolé. Tu peux.
Pas le sens.
C'est une bêtise. Franchement, c'est une énorme malade. Mais oui. Mais regarde, tu sais très bien comment les propos sont. Tu bosses à la radio, tu sais bien comment les propos peuvent être reçus, les paroles peuvent être reçues. Tu dis pas à Marseille, quand t'as des responsabilités, c'est un club qui a aucune identité et moi je vais vous apprendre un peu, on va mettre de l'ordre là-dedans. Je pense qu'il y a une maladresse, il y a une volonté d'agir un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, et qu'en tout cas, dans la façon dont c'est rapporté, moi je pense que ça peut créer des.
Mais si Jean-Marc Ayrault avait dit ça, dans ce club il n'y a pas d'identité?
Mais alors pour moi la phrase
de Marco, le pire c'était il y a trop de Marseillais.
La phrase de Marco Otero là, j'aimerais bien connaître savoir le contexte. Et si le contexte c'est de dire qu'il n'y a pas d'identité, l'identité marseillaise au sein des étages administratifs, c'est peut-être parce que Jacques-Henri Hérault a fait la connerie de virer tous les Marseillais et de prendre trop de mecs débarqués de la Startup Nation, j'allais dire un gros mot, t'as vu, Startup Nation de mes bip, et qu'il a gangréner les départements administratifs de l'OM par des mecs qui n'y connaissent rien, qui n'avaient jamais rien à faire là.
Voilà pour Marseille, messieurs. Dans un instant, on va parler d'un adversaire de l'équipe de France au Mondial, au Qatar, la Tunisie, qui sera mardi soir à Paris, au Parc des Princes. Tunisie-Brésil, le Brésil justement qui affronte actuellement le Ghana au Havre sous les yeux de Valentin Jamin. Valentin.
Oui, 49 minutes de jeu, toujours ce score de 3-0 pour le Brésil. Marquinhos, doublé de Richarlison, un changement côté brésilien à la mi-temps, Thiago Silva remplacé par Bremer, alors que Souleymana côté ghanéen notamment est sorti, remplacé par Iñaki Williams. On a également vu Salisu, le joueur de Southampton, prendre place pour les Ghanéens, mené 3-0 après 50 minutes de jeu face au Brésil.
Avec ton micro, Jonathan.
C'est quand même, quand tu es capable de mettre Bremer sur le banc par exemple, ça veut dire que t'as quand même un sacré effectif.
Un bon réservoir devant et derrière.
Un petit résultat, les gars, l'équipe de France Espoir s'est imposée en Allemagne 1-0 grâce à un but d'Emin Guiri, voilà, à la 52e. Les A allemands, eux, à la mi-temps, sont menés 1-0 par la Hongrie, 0-0 entre l'Italie et l'Angleterre dans le groupe 3 de la Ligue des Nations. La Ligue A, dans un instant, la Tunisie au programme. On ira faire un tour à Londres pour dire adieu à Roger Federer avec Eric Salio qui est sur place. A tout de suite, c'est Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
21h47, Génération After RMC. Merci d'être avec nous. Jonathan McCarty, Simon Dutin à mes côtés. Dans un instant, on parle de la Tunisie qui sera au Parc des Princes mardi soir pour affronter le Brésil. Le Brésil qui est sur le terrain actuellement, Valentin Jamin, au stade Océane du Havre face au Ghana.
Et qui est facile, 56 minutes de jeu, 3-0 pour le Brésil. Marquinhos doublé de Richarlison et corner à venir pour les Ghanéens qui essaient de refaire surface. 3-0 pour le Brésil.
45 000 places vendues en 3 jours pour ce match au Parc des Princes mardi soir, Brésil-Tunisie. Il y aura beaucoup de Tunisiens, bien sûr. On en parle dans un instant. D'abord, un petit salut à Eric Salio qui est à Londres. Il a de la chance. Il aurait pu payer 80 000 euros pour y être. C'est gratuit, une accréditation. Il est à l'O2 Arena pour dire adieu à Roger Federer. Bonsoir, Eric.
Salut, Nico. Eric. Bonsoir à tous.
Raconte-nous ce que tu vois. Je vois Djokovic au bord du court, par exemple, déjà.
Oui, parce que c'est le premier simple de cette night session qui oppose depuis 1h27 maintenant Andy Murray et Alex de Miller, et c'est un match qui n'avance pas. C'est-à-dire que ça retarde d'autant l'entrée sur le court de Roger Federer. Mais non, on sent qu'il y a une atmosphère très particulière depuis tout à l'heure, depuis environ 2 heures, puisque les spectateurs qui ont la chance d'avoir le billet gagnant, ils ont presque gagné au loto. Bon, bah, ils vont vivre un truc historique et l'échauffement, l'ultime échauffement de Federer, c'était un vrai événement qui a été mis en scène par la Lever Cup, puisqu'il s'est entraîné sur un cours éphémère. Et sachez que des gens faisaient la queue. Et il y avait une procession pour assister, mais 20 secondes, à l'entraînement de Federer avec Nadal, avec un monsieur qui disait quick, 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 dépêchez-vous pour que tout le monde en profite, puisse prendre une photo. Donc c'est vraiment.
Tu utilises des termes religieux, quoi, presque.
Comme l'entraînement de la reine, on a l'entraînement d'un roi. Mais ça se passe dans d'autres circonstances beaucoup plus joyeuses, heureusement. Non, mais c'est un véritable événement et on attend maintenant.
Mais toi, dis-nous comment tu le vis, toi, qui suis le tennis depuis tellement d'années.
Moi, je suis très serein. Mais j'attends de voir.
Tu vas pas jouer, évidemment, c'est parce que
comment je vais être au micro si jamais on est en direct.
Tu vas être ému, tu penses.
La balle de match, je pense que oui, ça peut être très émouvant.
Petite larmichette, là, peut-être, Eric Salio.
Pourquoi pas? Bah oui, il y a eu la larmichette avec Tsonga au printemps à Roland.
Mais là, c'est un vrai match, là, c'est une exhibition. Bon, voilà.
Bref. Oui, mais enfin, on entend.
On va faire le débat.
C'est le dernier match de Federer. C'est quand même
pas
rien.
C'est vraiment un match.
C'est un mec. Non, je suis d'accord, mais il y aura forcément une immense émotion.
Il fera d'autres matchs d'exhibition en plus dans sa carrière, tu vois. Donc en fait, on verra.
Il y a un vrai match en plus. Il y aura une opposition en face ou ils vont se faire éclater.
Ah, je peux te dire que Tiafoe, c'est pas un marrant. Et ils adorent endosser le rôle de vilain avec Frances Tiafoe. Ils veulent vraiment gagner. S'ils peuvent botter les fesses aux vieux entre guillemets, ils vont pas se gêner. Bon, surtout que. Pour l'anecdote, le reste du monde, enfin, ils sont un peu à la bourre au niveau du résultat parce qu'il y a déjà 2-0 pour l'Europe et que Murray mène 1-7-0 face à Dominant. Donc ça peut faire 3-0 au moment où Federer et Nadal vont entrer sur le court. Mais ça, c'est pour l'anecdote, tu as raison.
La dernière de Federer avec Eric Salio à partir de 22h30, peut-être, dans l'after sur RMC. Je vous le disais, dans le groupe de la France au mondial au Qatar, troisième match des Bleus sera le 30 novembre, ce sera face à la Tunisie. Tunisie qui a joué d'ailleurs hier soir dans les Yvelines, qui a battu les Comores 1-0. Avec un joueur qu'adore Jonathan, Saïfeddine Rahoui, titulaire.
Adore.
T'en pas exagéré.
Non,
tu regrettes.
Bien sûr. Non, faut pas exagérer. Je pense juste qu'à l'époque du marasme olympien, là où il jouait, je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu plus sa chance.
Alors messieurs, pour nous dire ce que vaut et ce qu'ambitionne cette sélection tunisienne au Mondial, nous sommes avec un journaliste tunisien d'une radio très connue sur place. C'est Mosaïque FM, première radio privée de Tunisie. Ahmed Adala est avec nous. Salut Ahmed.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Simon, bonsoir Jonathan.
Bonsoir Ahmed. Salut Ahmed. Heureux de t'accueillir dans Génération After, Mohamed. Bon, comment tu vis ces 58 jours justement avant le Mondial? Dis-nous en plus sur la Tunisie, parce que je crois savoir qu'il y a un regain d'espoir, notamment quand vous regardez la liste de blessés en équipe de France là.
Ouais, oui, avec beaucoup d'espoir, mais en même temps, on a eu peur parce que, peur entre guillemets, parce que la France, c'est 5 joueurs par poste minimum. Donc, autant de blessés, mais autant de remplaçants pour les joueurs cadres parce que. Ce qu'on a vu hier, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être présents lors de la Coupe du Monde alors qu'ils n'ont pas participé à la campagne, par exemple, ou qu'ils n'ont pas disputé la totalité des derniers matchs avec la sélection française. Mais nous, en Tunisie, on attend cette Coupe du Monde avec beaucoup d'impatience et avec beaucoup d'espoir pour espérer enfin, pour la première fois, aller au second tour d'un mondial. C'est notre 6e participation. Je pense qu'on a le même nombre de participations que le Danemark, mais on espère vraiment que cette fois-ci, ça sera la bonne parce qu'on va le disputer dans un pays où il y a au moins 30-35 000 Tunisiens, des ressortissants tunisiens qui vivent là-bas.
Il y aura un grand soutien sur place au Qatar pour la Tunisie. Tu disais à l'instant, Ahmed, 6e participation à un mondial. Dis-nous ce que vaut cette équipe, parce que tu me dis qu'il y a de l'espoir au pays. Quel est son niveau réel aujourd'hui?
C'est une équipe qui est capable de créer la surprise. On se rappelle tous de ce qui s'est passé, par exemple, lors de la dernière CAN. On avait pratiquement raté le premier tour à cause des cas Covid. Mais après, au second tour, on avait vraiment surpris tout le monde. on avait battu le Nigeria avec un slalom, un excellent but de Youssef Lemsekni. Pour l'anecdote, c'était Jalel Khadri, l'actuel entraîneur qui était à l'époque l'entraîneur adjoint qui avait dirigé ce match parce que l'entraîneur principal, Mondver Lekbayer, il avait le Covid. Donc voilà, du coup, on est capable de surprendre. On était capable même d'aller plus loin, mais encore une fois, lors de la CAN, c'était notre bête noire, le Burkina Faso. On s'est fait éliminer face à une équipe qui était plutôt prenable. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la Tunisie, face aux géants, généralement, on rend des très bonnes copies, de très belles copies. Comme par exemple, c'était le cas lors du Mondial 2018, on était à deux doigts d'arracher un nul historique face à l'Angleterre.
C'est vrai, je me souviens.
Ouais.
Jonathan, Simon, une question à poser à Ahmed.
Moi, c'est une question sur votre avancante, Kenissi. Il y a souvent, dans les sélections maghrébines, ce genre de numéro 9 qui marque des buts en pagaille sur le continent. Et on a toujours un petit peu du mal à connaître leur vrai niveau. Là, j'aimerais savoir, en fait, qui il est, Kenissi. Est-ce qu'il est vraiment capable d'être performant en Coupe du Monde? Parce que quand on regarde ses stats, c'est impressionnant.
Yassine Khnissi, c'est un ancien joueur de l'Espérance Sportive du Tunis, le club qui avait remporté deux Champions League de suite. Il faisait partie de l'équipe, il avait une très bonne formation à l'Espérance Sportive du Tunis, puis il est parti au club sportif saxien. Aujourd'hui, malheureusement, on le dit peut-être, entre guillemets, il joue dans un championnat beaucoup moins huppé au Koweït, c'est ça. Mais avec Khnissi, il y a aussi le Saifeddine Jazir, l'attaquant du Zamalek, le club égyptien, mais... Cette équipe, c'est en 98, j'avais lu un rapport publié par 11 Mondial sur cette sélection tunisienne qui se préparait à participer à la Coupe du Monde 98 en France. Et le titre, il m'a vraiment attiré. Ils avaient dit la Tunisie, cette équipe des ailes. Donc finalement, c'est une équipe des ailes. C'est une équipe qui peut surprendre. On a d'autres attaquants neufs. On a par exemple Saifeddine Jazir, donc comme je l'avais dit, on a encore ton ami, peut-être il peut évoluer en attaque, même si il est beaucoup plus utilisé en milieu de terrain, Saifeddine El Khaoui.
On a aussi un joueur côté qui peut
évoluer dans le deux postes. Mais aussi on a un excellent Wahab El Khazri. Je me rappelle très très bien, moi par exemple, Wahab El Khazri, il était tout le temps un 10, et quand Sabri Lamouche débarque à Rennes, il le met en 9,5 ou en 9, et on a tous vu ses buts marqués lors du Mondial 2018. Donc l'équipe, elle est plutôt homogène. On a le mélange entre l'expérience et les jeunes. La tendance dans la Tunisie d'attirer les binationaux, Hanaba Al Majbri, Chaïm Jbeli, le dernier arrivé, Saifeddine El Taïf. Donc on a vraiment une équipe plutôt capable de créer la surprise.
Justement, Ahmed, bonsoir. Moi, je voulais te poser la question sur justement le petit Mejri là de Manchester. Il est encore très jeune, il joue pas beaucoup là. Il est prêté en deuxième division anglaise. Qu'est-ce qu'on attend de lui en Tunisie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir quand même, ou est-ce que on reste très prudent?
Je ne vais pas dire que c'est la star de l'équipe nationale, parce qu'on a déjà Youssef Lemsekni, on a aussi Wahab El Khazri, qui ce sont le capitaine et son vice-capitaine, les deux stars de cette sélection, même si la Tunisie repose toujours sur un jeu collectif. Mais Hanaba El Majbri, c'est le porteur d'espoir. C'était le premier grand coup réussi par la direction du suivi des joueurs expatriés. Entre guillemets, nous, en Tunisie, on le voyait déjà partir choisir l'équipe de France, mais finalement, il avait choisi de représenter la Tunisie, d'endosser le maillot de la sélection tunisienne. Après, il est parti à Manchester. On s'attendait beaucoup de lui. Il ne joue pas. Il lui manque un peu d'encadrement, peut-être, je ne sais pas. Mais là, il part à Birmingham au dernier jour du mercato. Il a joué peut-être 20, 25, 30 minutes lors des trois matchs avec Birmingham. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. On l'a vu lors de la Coupe Arabe FIFA. C'est le porteur d'espoir de la prochaine génération de la sélection tunisienne.
Ahmed Adala de Mosaïque FM. Merci Ahmed d'être venu dans l'After. C'est un plaisir de t'accueillir. Et puis on te reverra au Qatar. Tu seras là?
Inch'Allah, oui, comme on le dit en arabe.
Alors on se croisera peut-être au Qatar. Oui. On garde ton numéro pour nous éclairer sur la sélection tunisienne que la France affrontera le 30 novembre, dernier match de la phase de poule. Dans un instant, l'After prend la main à 21h57 avec Thibaut Jean-Grande. Je suis sûr qu'il ne va pas parler de l'équipe de France, ni de Mbappé, ni quoi que ce soit. C'était beaucoup plus créatif que ça.
Pas en deuxième heure, effectivement. À partir de 23h, il n'y aura pas d'équipe de France. Ce sera l'OGC Nice, ce programme. Fabre qui est maintenu, finalement. Supporter niçois, 32-16. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On prendra des nouvelles de nos supporters des Bleus qui sont partis il y a un mois en vélo au Qatar. Ils ont leur billet en poche et ils rejoignent Doha en vélo. Voilà. Bilan carbone très bon. Ils sont en Turquie, là, mi-chemin. On leur passera un coup de fil. Et puis sinon, dans un instant, entre 22 et 23, on parlera peut-être un peu de l'équipe de France, un peu de Kylian Mbappé, pourquoi pas avec Roland Courbis, avec Kevin Diaz. Et on vous attend évidemment au 32-16, supporters de l'équipe de France. À tout de suite.